Ce jour-là, là-bas si j'y suis, à 15h, sur France Inter.
Spécial dédicace à Antoine Chao, Bernard Lubat. Ainsi va Lubat battre la vie ça va tu l'as dit. Au bal aussi c'est là que t'as tout vu passer, le passé des paysans. Vas-y les vas-y, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit, ménage à caisse, t'en sortira pas comme un con. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage. Aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis-nous, dans des mots doux, doux désirés, si efficace est ta pensée. Ciao, vive, à vendredi.
Eh bien voilà, je viens de réécouter Bernard Lubat. Écoutez, c'est un bonheur de le réentendre. Je suis lubiste, moi, depuis 1982. Donc je me rends compte, en fait, en écoutant que ça fait... ça faisait pas longtemps que UZEST existait, le festival. Et voilà, pour moi, c'est une révélation. J'étais toute jeune à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai pu, j'ai pu me mettre à la musique grâce à ça, alors que je pensais que c'était pas possible pour moi. J'ai lu des choses que j'aurais jamais lues. Ça a vraiment changé ma vie. Et Lubat, c'est resté un compagnon dans mon cœur longtemps. Et Porta, l'esclavis à l'époque, qui avait, je sais pas quel âge il avait, l'esclavis, il était tout jeune musicien. Jacques Di Donato, je me souviens de gens comme ça que j'ai découvert, puis j'ai découvert l'esprit UZEST, quoi, que j'ai essayé de garder. C'est pour ça que j'écoute là-bas si j'y suis toujours, quand je peux. Et je suis très émue, en fait, d'avoir écouté l'autre fou de Lubat, que j'ai vu l'année dernière à Marciac avec Portal, qui a 80 balais maintenant, et qui jouait encore Lubat du cochon, en même temps que l'autre, il jouait de la clarinette basse. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Je vous remercie beaucoup.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Bah, c'est vraiment la rentrée avec la direction de France Inter qui applique les bonnes méthodes néolibérales en cours partout et qui démantèle là-bas par petits bouts. Plus de vendredi, il n'y a plus de vendredi dans la semaine maintenant. Et puis on enlève des petites minutes. Allez, tenez bon les gars. Arnaud de La Réunion.
Oui, bonjour, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Il n'est pas dans la culture ni dans les habitudes des Américains de faire grève. Et pourtant, ben, McDonald's, jeudi 29 août, est en grève. Tous les McDo sont en grève aux États-Unis. Il y a plusieurs semaines de conflit déjà. En France, ça commence à bouger légèrement dans le sud de la France. Il est très très important de s'inquiéter de la situation des ultra précaires qui travaillent chez McDonald's. McDonald's est coté en bourse au CAC 40 et il y a des très 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 gros problèmes. Je vous invite à consulter Internet, à venir nous voir, nous rencontrer sur les terrains, il y en a partout. Merci beaucoup, merci à vous, au revoir.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Bon bah écoute, juste pour info quand même, arrête de dire que UZEST c'est dans les Landes, c'est en Gironde. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.
Chaque année, Antoine Chao me dit « Mais non, t'as encore dit, c'est dans les Landes, c'est la Gironde !» Voilà, et hier, je me suis à nouveau planté. C'est pas les Landes, c'est la Gironde. Où nous allons à nouveau aujourd'hui, à l'occasion du 36e festival d'UZEST, avec Bernard Lubat, mais il n'est pas tout seul. Bernard Lubat, on va le retrouver, mais avec lui, on va trouver... des tas de gens, et depuis Monsieur Riquet, que vous allez découvrir peut-être, on va découvrir Jacques Liégeois, qui est un peintre, on va découvrir le boucher d'UZEST, vous le connaissiez déjà, mais là on va encore parfaire notre connaissance et notre compétence en matière de boucherie d'UZEST, et puis on passera un moment avec Roland Gori, qui est un chercheur, un psychanalyste, un érudit, qui sort un bouquin. Mais tous ces gens-là sont sur le même niveau, hein. Il n'y a pas le psychanalyste en avant, c'est des langages, des langues et des façons de voir, de parler, de penser différentes et qui là, on pourrait presque dire miraculeusement, en tous les cas à l'occasion de ce festival, et ben se côtoient, se mêlent, se jauge, se juge, s'amusent et finissent par danser toutes ensemble. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous, c'est pour vous indiquer que le repère de Tourette reprend vendredi. On reprend les bonnes habitudes, ça sera le dernier vendredi du mois, comme d'habitude. Donc on le fait au mois d'août, on n'avait pas prévu, on avait prévu de le faire en septembre. Mais comme ils t'ont sucré 20% de ton temps et que tu héberges Hervé Pochon, on va parler de l'émission et de son avenir, en souhaitant que toute l'équipe soit en pleine forme pour nous faire une année bien militante, pour bien leur bouger le cul. Allez, ciao, vive. On se retrouve vendredi aux latitudes à Tourette à 19h. Vive, portez-vous bien.
Bonjour Daniel, je suis Gilles de Grenoble. Ben, je suis bien content, hein, voilà, les vacances sont finies, je suis désolé, mais bon, ça fait bien plaisir de retrouver tes émissions. Et j'avais une petite interrogation, tu avais fait avec ton équipe un reportage sur Marina Leda, combat des gens de Marina Leda, de son maire, tout ça. Je me faisais une petite réflexion, il serait intéressant de voir comment l'organisation de Marina Leda, économique, sociale et tout ça, se comporter face à la crise, si ils s'en sortaient mieux que les autres régions d'Espagne ou moins bien. Il me semblait que c'était intéressant à suivre et on pourrait peut-être en tirer des enseignements. Alors, je suis ni à droite, ni à gauche, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni milieu. Je suis totalement apolitique, mais ça m'intéresse. Au revoir, Daniel, au plaisir.
Et depuis quand ça dure cette histoire-là, du Zeste ?
36 ans, ça fait 36 ans qu'il paraît que ça dure, j'arrive pas à y croire, c'est pas étonnant puisque je suis pas croyant, je suis pratiquant.
Excusez-moi, je cherchais quelqu'un.
Je vous en prie, moi aussi, je cherchais Bernard Luba.
Mais pas du coin.
Voilà, ouais, c'est vers là qu'il faut aller. Ouais, mais vas-y, mais exagère, d'abord exagère. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fait 36 ans qu'on fait ça, qu'on joue à ça, on sait toujours pas le faire. Hein. Et pourtant, on n'en est pas dégoûté, quoi. C'est, le désir est intact, tu vois. C'est ça qui est curieux. On est heureux, dans ce dindé, même sur Adios, j'ai proposé qu'on construise une barricade et j'y suis dessus. Voilà, c'est ça, ce que je suis, le fèche, le chef, je ne sais pas trop, je n'ai pas le mot trop, mais je suis un des responsables. Avec la CGT aussi, on réfléchit à beaucoup de choses. C'est-à-dire, la liberté, ça s'apprend. Et on va délirer, on va délier, on va démonter les préjugés, racis, les idées nazes, on va inventer la vie. Vous voyez, je ne sais même plus parler normalement. Ça m'a pris de petit, j'ai des sonnements pour Doc Tac, et bon, voilà quoi, c'est tout.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao. Luba, si j'y suis, quand tu sais te faire entendre, ne t'étonne pas d'être mal vu.
Flight number 2, arriving from New York.
Ah, c'est quand même ça les staminets. Ça fait, la façade doit faire 30 mètres de long. Arriver à être libre avec la qualité de l'autre. Maison fondée en 1937 par Marie et Alban Luba, théâtre à musiciens. À quoi ça sert de lire ? Ça fait penser, respirer. Ça fait respirer la pensée. L'artiste démolit la maison de sa vie pour, avec les briques, construire une autre maison publique, celle de son œuvre. Ça, c'est de Bernard. La réalité de l'artiste est la possibilité des autres hommes. Très beau. Je pense que c'est Joël Bousquet. Hein. Désobéir à la fatigue d'obéir.
Il faut avoir une parfaite conscience de ses limites, surtout si on veut les élargir. Antonio Gramsci.
Gramsci.
L'identité n'est pas une aptitude à reproduire ce qu'on a été, mais à devenir autre.
Ouais, Félix Castan, un spécialiste des langues occitanes.
En allant vers la mer, que le fleuve reste fidèle à sa source. Jean Jaurès.
N'entrez pas sans désir. La culture rassure, divertit, l'art inquiète, avertit. Quand tu sais te faire entendre, ne t'étonne pas d'être mal vu. Eh bien, nous en voilà encore une heure. À Uzest, ça c'est les staminets, vous avez compris, c'est le bistrot qui a été celui des parents de Luba, Marie et Alban Luba, qui ont créé ce lieu à l'époque après la Deuxième Guerre mondiale. On y mangeait, on y dormait, on s'y arrêtait, puis on y guinchait aussi. Le père Luba prenait l'accordéon et faisait danser tout le monde. Alors, il y a ce passé, il y a cette légende, il y a cet ancrage dans le terroir de la part de Luba et d'autres aussi. On va rencontrer d'autres habitants, d'autres gens du coin, du terroir, du lieu, d'autres génies du lieu. J'ai dit génies du lieu, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Et puis, il y a ceux qui sont de passage, ou qui viennent là de temps en temps, en vacances, qui se sont trouvés une petite maison là, qui viennent là, mais qui savent pourquoi ils viennent. C'est pas seulement pour le beau paysage. Non, ils viennent aussi pour l'esprit de ce patelin, de petit village, et ils y contribuent, etc. On va rencontrer tous quelques personnages, quelques personnalités. Peut-être pas assez les jeunes. Il faudrait parler des jeunes qui viennent à Uzest. Beaucoup de jeunes musicos, des bons musicos, des jeunes, la nouvelle génération, qui vient se frotter et qui vient se friter avec les anciens, comme Luba, comme Portal, que l'auditrice évoquait tout à l'heure, avec ses 80 balais. Le Portal, il fonctionne toujours. Il n'est pas le seul, mais enfin, c'est la grande génération, c'est la légende, etc. Et il y a plein de petits jeunots, 25, 30 ans, qui viennent leur tirer la bourre, quoi. Alors, ça stimule les vieux et ça fait du bien aux jeunes. Et tout ça est très sérieux. On sait pas, le truc décousu, ça a l'air comme ça, mais c'est le jazz, hein. Le jazz a l'air improvisé, on a l'air de tomber de la lune, etc. Mais non, il y a la pratique, beaucoup, beaucoup de pratique, d'entraînement, de sérieux, comme dit Luba, la liberté, ça s'apprend. Et je soulignerai sa phrase du jour, et sera la phrase du jour pour là-bas si j'y suis. Quand tu sais te faire entendre, ne t'étonne pas d'être mal vu.
La vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés à devant des écoliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflé qui s'est tiré, rissé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le doux, donc dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace est à passer. Sur ton accordéon, tu touches à tout. J'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts. Donc si le songe, si tu médites des fois, je fasse firmament une note cassée. Cassée, on n'en est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit, qui file la basse en bas, dédicacée, la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à tout. J'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts. Donc si le songe, si tu médites des fois, je fasse firmament une note cassée. Cassée, on n'en est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit, qui file la basse en bas, dédicacée, la balade dans l'horizon. Si va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on l'a dit, mais il a la caisse, comme des oublis, la passe, Koumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous, dans des mots doux, du désir ici. Et puis, cassez ta pampasse, si toi, tu dois ton droit.
Non mais si on passe très vite, on remarque pas, hein.
Ouais, c'est le garage de Jackie là, Jackie Liégeois, ouais.
Ouais, mais si on passe très vite, on remarque pas. On croit que c'est des morceaux de papier arrachés, des bouts d'affiches, etc. Mais un millième de seconde de plus, hop, on s'aperçoit que c'est deux peintures sur ces tôles ou sur ces portes.
C'est une porte de garage en tôle ondulée. Voilà, c'est la porte de garage de Jackie.
Voilà, et c'est peint. Ces deux peintures absolument magnifiques. Là, c'est un camailleux de bleu avec quelques rehaussés de quelques points rouges qui font vibrer le camailleux de bleu. Ça, c'est vraiment un boulot des années 60. Vraiment, la peinture, comme on l'aimait et on l'apprenait et on la célébrait dans les années 60. Et ça aussi, c'est pareil avec un horizon de rouge et d'orange en haut, quoi. Et tout ça, c'est dans une rue d'Uzest, avec quand même un rappel, alors ça, c'est pas lui qui l'a peint, de stationnement interdit avec un bleu et un rouge, qu'on regarde pas de la même façon une fois qu'on a regardé la porte. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, ça, c'est peut-être la peinture qui continue, et ça nous permet de regarder ce panneau différemment. Et là, au bout, on voit le théâtre à musiciens, c'est-à-dire, là, on est chez Luba, avec le petit pépère qui remonte avec ses cannes.
Ouais.
La jeunesse.
Lui, c'est Riquet. C'est Riquet qui a bien connu Bernard parce qu'il a habité pendant des années à l'Estaminet, parce que l'Estaminet faisait aussi auberge et restaurant. Donc Riquet est un habitué, il connaît très très bien Bernard et la famille, et ça a été, c'est un habitué du festival. Donc il y a effectivement des jeunes qui viennent maintenant, 20 ans, qui viennent jouer, qui viennent expérimenter ici la musique, mais aussi les anciens qui continuent à venir profiter, guincher, bon, autant qu'ils peuvent encore, quoi. Mais il y a vraiment, c'est transgénérationnel, pourvu que ça dure.
Radio Uze.
La radio qui ajoute à l'instinct de conservation, l'instinct de conversation.
Henri.
Henri Di Riquet, c'est
oui,
ça.
Oui, d'Artigolan.
C'est la radio Uze, hein, vous connaissez?
Ah oui, oui.
Oui, c'est la radio qui marche l'été au moment du festival.
Oh là là là, oui, maintenant je ne peux plus, mais depuis qu'il a existé, j'ai toujours suivi le festival.
C'est vrai?
J'ai vécu 40 ans à l'estaminet.
Ah bon?
En pension, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans.
En pension, c'est-à-dire?
Eh bien, je prenais le repas là, matin, midi et soir. C'était un restaurant et il y avait toujours du monde.
Vous parlez des parents
de Bernard.
Du musicien Bernard.
Bernard, d'accord. Voilà. J'étais sûr que j'aurais des bons repas pour me tenir pour mon travail, de manger suffisamment, quoi.
C'était voilà. Quoi votre travail?
Dans les usines à bois.
La compagnie Lubat autour de Bernard, ça fait vivre quand même quelques,
ah oui.
Quelques personnes au village.
Ah, ah oui, ça c'est sûr. Quand il y a le festival, il y en a quand même, ça les fait travailler. Comme Marie-Jo, Thierry, le boulanger, tout le monde travaille. C'est bien. Mais moi je connais Bernard, je l'ai vu tout petit.
Ah, comment il était tout petit?
Toujours turbulent, et puis quand il a commencé à courir les filles, moi, je lui prêtais la mobilette.
Qui ça, Bernard?
Oui.
Bernard Lubat?
Oui, je lui prêtais la mobilette. Il s'échappait à Bazas, courir les filles. Et puis, ce couillon, il me perd l'assurance. Eh bien, j'ai dit, mon vieux, on est mignon maintenant. Bon, enfin, on s'est débrouillé, on en a fait faire une ou trouver une, enfin, on s'est arrangé. Mais moi, quand il arrivait, je mettais l'échelle pour qu'il monte aller dans sa chambre. Et puis un jour, le papy, il avait compris le rôle. Alors, Riquet, il me dit, je lui donnerai la clé, t'auras pas besoin de le faire passer par la fenêtre. Et puis finalement, ça s'est arrangé, puis lui, il sortait. Et puis voilà, et puis après, c'est passé à la rigolade. Mais oui, Bernard, oui, il était toujours débrouillard à l'école. Ça, il était bon élève. Mais il a son caractère. Mais, moi, je le connais très bien, ça ne m'embête pas. Mais il a son caractère, comme moi, j'ai le mien. Et puis voilà, quoi.
D'accord.
Vous allez le passer à la radio, ça?
Radio Uze, la radio des Uze. Écoute.
Et quand l'usine aboie, le pays chasse.
À la prime du 28 octobre de l'an de grâce 1991, Arthur Charles-Marie Bouillon de Pompéjac, seigneur de Montalier, baron de Montstatruc, apparut à la fenêtre haute de sa gentilhommière au fond des bois, la main calée en visière, inspecta la ruralité.
Il faut qu'on lui donne un là, il faut tout lui donner. Je fais plus rien maintenant, moi je fais plus rien, je fais même plus mon âge. C'est pas de la payantise.
Et quand l'usine aboie, le pays chasse.
Ce qui se passe à Uzest, c'est. On se dit toujours, il faudrait montrer aux uns comment vivent les autres. Hein, on ne sait pas très bien comment vivent les autres. On imagine la vie des autres, mais déjà qu'on arrive, on a du mal à imaginer la sienne propre. Et comment vivent les autres d'autres milieux, des autres milieux sociaux, culturels, générationnels, etc. C'est difficile d'imaginer ça. Et pourtant, c'est une nécessité si on veut se situer au moins, ou penser, et puis. Quand on a l'ambition ou l'envie ou le désir de changer le monde, eh ben, il faut comprendre un peu comment marchent les morceaux du monde, c'est-à-dire ces morceaux d'humanité. Et un festival comme celui-là, ben, c'est l'occasion. C'est une occasion tout à fait unique de rencontrer voilà, tous ces mondes sociaux différents que chacun représente. Eh oui, celui, le monde du boucher, le monde de Riquet, le monde des musiciens, etc. Et c'est effectivement ces rencontres se font par le truchement de la musique. Et là, ce qui est exceptionnel à Uzest, c'est que il y a toutes les musiques. Là, ce qu'on entend, c'est une polka, mais c'est les musicos, c'est Luba et les siens, et les musiciens qui sont là, qui jouent cette bonne vieille polka traditionnelle franchouillarde de la France profonde d'avant. Et puis, tout à l'heure, un peu plus loin, dans un champ, à l'abri de la collégiale, là, se mettant bien appui à la collégiale pour avoir le maximum d'écho, il y aura peut-être une... Ils vont partir sur un morceau très free, très libre. Et ce sera ces langages différents de la musique qui refléteront et qui permettront les rencontres et les frottements de ces langages différents et de ces archétypes sociaux différents. Et là, par exemple, dans un instant, on va rencontrer Roland Gori, qui est un chercheur, un érudit universitaire. Mais d'abord, on va faire un tour chez un collègue.
Espace Léo Ferré, voilà, on est chez Jackie Liégeois. Donc il y a des frises sur une petite maison juste en face du théâtre à musiciens de l'Estaminet, et c'est l'espace Léo Ferré, baptisé pour l'occasion, pour cette 36e Estéiade de la Sarthe, Festival du Zest. Et on est chez Jackie Liégeois. Une maison atelier, quoi. Il y a plein de tableaux, de sérigraphies accrochées au mur. Salut Jackie, c'est pour une porte de garage.
Oui, cette porte de garage, elle a une histoire en fin de compte.
Très belle ta porte de garage. Et avant, elle s'est passée deux fois devant et j'ai dit, ça c'est un gars, il doit avoir une cinquantaine d'années. Ouais. D'après ton niveau graphique.
C'est un peu l'école de Paris, quoi. Bissière, Talco, ces gens-là qui sont adorables. Enfin bon, j'apprécie énormément, bon, qui sont pas hyper connus ou hyper médiatisés, mais bon, qui font un travail régulier. Je suis un petit peu plus que 50. J'ai découvert ça quand j'étais ado, quoi, un môme, jeune homme, quoi. J'étais venu proposer une exposition sur John Coltrane à Bernard Lubat en 86, et il a dit, oui, viens à Uzès. J'ai amené mon expo et j'ai compris qu'en fin de compte, à Uzès, il ne faut pas venir avec ce qu'on fait un petit peu à l'extérieur ou loin, il faut travailler sur place, quoi. Donc, il faut indiquer des lieux, faire des choses colorées, etc. Ça, c'est un bonheur. Donc, à la fois, j'ai écrit ici à Uzest la signalétique, les lettres, j'ai appris à travailler vite. Et cette année, je l'ai réintégré sur les textes de...
Entre nous, c'est excellent, ta signalétique. Hein.
C'est rigolo.
Ouais. Oui, mais il y a une force, là, très beau.
Ça, c'est mon côté typographie, les lettres. Ouais. Alors, l'égyptienne, l'Elzévir, je travaillais ça à la main.
Et autres dido.
Au Beaux-Arts, on prenait une année pour travailler sur une lettre.
Ouais, moi aussi.
Enfin, c'était mieux avant, mais bon, on continue quand même. Hein, donc,
on est obligé.
Oui, il faut surtout penser à ce qu'il y a devant, quand même.
C'est vrai.
Donc, la signalétique, je l'ai réinstallée autour des croquis et des portraits de Léo Ferré. Bon, avec le jazz, parce que je suis un fou de jazz. Un truc, quand même, il faut que je dise. Moi, à mon avis, l'imagination, elle me vient que depuis tout petit, j'écoutais la radio. Moi, je suis quand même un peu resté à la radio, quoi. Et alors, c'est vraiment un bonheur, la radio. Et ici, ça continue. C'est pas le passé, voilà. C'est Antoine. Et c'est extraordinaire. Parce que quand je peins, moi, je travaille là, ou je travaille dans le garage, ou un peu... Ou sur ma porte, parce qu'il a bien fallu que je m'y mette devant ma porte. Eh ben, en écoutant Radio U. Comme ça, les débats de fond, les débats très importants, tu sais, où il se dit des choses énormes, toi, où les gens ne comprennent rien, mais ils adorent, ils reviennent. Eh ben, j'écoute tout à la radio, toi. C'est formidable. Radio U, la radio qui m'amuse.
36e Estéiade de la Sarthe, du 17 au 24 août 2013, à Uzest, Casalis, Lignan de Bazas, Noyant, Pompéjac, Mazère et Villandreau.
Laisse-moi avoir un coup, après on parlera. Radio Uzest.
Devant la boucherie-charcuterie de Thierry Nebout, le camion... T'es prêt ? Thierry,
monsieur.
C'est mercredi, c'est la tournée, c'est ça ?
Oui, tu es plein de tour avec moi.
C'est vrai, on avait fait une belle tournée ensemble et une émission pour Là-bas si j'y suis,
voilà,
qui reste mémorable.
Ouais, non, tu viens pas alors?
Non, aujourd'hui je pourrais pas.
Aujourd'hui tu viens pas. Ah, tu verras que les têtes ont changé un petit peu. J'ai perdu mes deux clients, c'est les deux premiers. Le droite-gauche. Je les ai plus, hein, ils ont disparu.
Ah, ils sont partis.
Et ouais, c'est ma tournée d'avenir. Tous les mercredis, je vais voir mes fidèles clients du 4e âge. Qui ne peuvent plus se déplacer. Alors, ils m'attendent de pied ferme. Mais je vais les voir. Hein. Ça fait plus de 40 ans qu'on les sert, on ne va pas les laisser tomber. Hein. Même si ça me coûte d'y aller, j'y vais. Voilà. Avant, je faisais Lilian de Bazas, Pompéjac, Bernos, Préchac. Mais ils sont tous regroupés, évidemment, dans les centres où c'est plus facile pour eux pour vivre, quand même. Donc, ils sont tous sur Préchac. Voilà, depuis 40 ans, on est fidèles les uns des autres. C'est comme ça.
Bon, Thierry, n'oublie pas de leur dire qu'ils peuvent suivre le festival sur Radio Uz.
D'accord.
Radio Uz, 36e Estaillada de la Sarthe. Jeudi 22 août à 14h au Parc Seguin, conférence débat La fabrique des imposteurs, avec Roland Gory, psychanalyste à Marseille et professeur de psychologie et de psychopathologie clinique, initiateur de l'appel des appels.
Antoine, je suis un peu déçu, hein. Tu m'as proposé de venir là chez toi pour rencontrer des bûcherons, des chasseurs, hein, et ton boucher. Arcutier, et voilà que tu me présentes un professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille, qui s'appelle Roland Gory et qui est psychanalyste, membre d'Espace Analytique. Voilà, alors je ne vais pas dire que je suis déçu, mais c'est pas un bûcheron, c'est pas un charcutier que tu me présentes, c'est Roland Gory.
C'est qu'on trouve de tout pendant les Estaillades de la Sarthe, à Uzest. C'est ça qui est intéressant.
Roland Gory. C'est pas grave de ne pas être charcutier, hein. Ni bûcheron.
Personne
n'est parfait. Alors, moi, ce qui m'a attiré dans votre bouquin sur la fabrique des imposteurs, publié au début de cette année aux éditions Les Liens qui Libèrent, qui s'appelle La fabrique des imposteurs, c'est le début du bouquin où vous évoquez l'expérience, et Salomon H., hein, c'est ce chercheur américain, pas très loin de Stanley Milgram, qui avait fait cette expérience sur la soumission à l'autorité. Dans votre fabrique des imposteurs, vous partez de cette expérience.
Bon, l'idée est relativement simple, c'est que finalement, les gens n'accomplissent pas jusqu'au bout le message des Lumières. En gros, le message des Lumières, quand on touche chez Kant, qu'est-ce que les Lumières? C'est « fais confiance à ta raison critique, émancipe-toi », c'est-à-dire « sors de toute tutelle, de toute soumission à une autorité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit royale, féodale ou autre ». Bon, on ne s'est pas émancipé, là-dessus c'est un échec. Du point de vue, justement, de la possibilité de se fier à sa seule raison pour juger et décider, c'est l'échec. Et l'expérience de H le montre très bien. Simplement, la souveraineté aujourd'hui, c'est pas la souveraineté de la religion, c'est pas la souveraineté du roi, c'est la souveraineté de la majorité, c'est-à-dire la majorité compacte. Et donc, pouvoir se situer hors du champ de cette majorité compacte, ce qui veut dire quand même aussi inventer, ce qui veut dire innover, ce qui veut dire créer. On le voit bien ici à Uzest Musical avec le travail de Bernard Lubin, par exemple. Bah, se situer en dehors de la norme, c'est prendre un risque considérable, parce que c'est se trouver en dissonance avec une majorité qui fait l'opinion. Donc, voyez l'articulation avec le marché. On le voit très bien, parce qu'aujourd'hui, la religion, c'est la religion du marché. Hein. Donc, il faut prendre le risque de transgresser les normes de la majorité, c'est-à-dire de l'opinion, qui est, bien évidemment, complètement façonnée par le marché.
Ce que vous appelez l'influence normative, c'est cette soumission consciente ou inconsciente à, effectivement, ce que vous décrivez là. Et donc, je reviens à l'expérience de H, il s'agit de comédiens, de barons, disons, qui sont dans une pièce, ils sont 8 ou 9, on a des comparses, on a une personne qui entre, qui est un cobaye innocent, et qui va être parmi ces comparses. On va présenter un tableau avec des lignes d'inégale longueur, et on va demander à ceux qui sont là, est-ce que ces lignes sont de la même longueur? Le premier va dire oui, le deuxième va hésiter en disant oui, etc. Tous vont approuver, c'est un mensonge, mais ils vont l'approuver. Et quand on arrive au cobaye, il va se soumettre la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il va se soumettre en se disant, bon, puisque tout le monde voit ça, ben moi je le vois aussi. Voilà, et ça c'est l'exemple de la soumission, l'influence normative. Alors ça c'est un fonctionnement psychologique, général, ça n'est pas spécifique à notre époque.
Absolument, c'est-à-dire prendre le risque de sortir de la norme, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. C'est-à-dire que la norme devient ce qui remplace son propre jugement, voir sa propre perception. Les conséquences politiques, on peut assez facilement en voir aujourd'hui les résultats. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui fait que, aussi bien les messages d'émancipation politique, les messages de progrès social, les messages de droits de l'homme ou de liberté, faut pas trop rêver. C'est-à-dire que s'ils sont majoritaires à un moment donné, ils produisent une norme de laquelle tout sujet aura du mal, bien évidemment, à s'éloigner. Mais si demain la norme change, les sujets qui se soumettent aujourd'hui aux normes humanistes, aux normes de droits de l'homme, aux normes d'émancipation, aux normes d'égalité, ben ces sujets, demain, ils vont se massifier autrement sur des normes qui pourront être des normes de droite, voire d'extrême droite. C'est justement le processus qui est intéressant.
C'est le triomphe d'un formatage de dissuasion massive. Là où, comment nous entraîner à nous faire avaler la pilule, l'extase, l'expédient, l'expédié, l'extasie. Allez-vous, coma pour tous. Mal bouffe, mal donne, mal vivre, mal voir, la mal ouïr, ça va mal finir. Et qui s'y frotte, s'y nique. On n'a que ce qu'on mérite. Et oui, tout captif porte dans sa main gauche le pouvoir d'anéantir sa servitude. Oui, mais maintenant que le changement, c'est maintenant que le changement, jusqu'où sommes-nous prêts à changer pour continuer à devenir nous-mêmes? Parce que c'est vrai que dans tout petit, tout grand changement, il y a un chien qui perd son os. Changer de vie, changer d'amis, changer d'habits, d'outils, de compagnie, de folie, de mélodie. Comment éviter de devenir prisonnier de la lutte qu'on mène? Et des rêves qui nous hantent, et des schémas intellectuels de ce que l'on combat. Alors si lutter pour ses droits, c'est prendre conscience de ses devoirs, résister à ses besoins, est-ce prendre conscience de ses désirs? Je ne répéterai pas. Hein. Oui. Alors, si l'ordre est le plaisir de la raison, ben, le désordre est le plaisir de l'imagination. C'est pas gagné.
Mais c'est ce que dit Ferret en parlant de l'artiste et qui était traité d'anarchiste. Quoi. Et c'est ça, ça n'a pas bougé, ça. Mais si tu n'es pas dans cette situation, tu es aussi dans l'autre situation. C'est-à-dire que tu deviens le porte-parole. Quoi. Ces artistes qui portent parole, qui... C'est Vaillant, Roger Vaillant, le journaliste, l'écrivain. Il disait, méfions-nous des prophètes. Ils croient ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas. Et il dit, laissons les prophéties aux facteurs, maintenant on pourrait dire aux portables. Ici, les gens, on n'a pas du tout la majorité dans la région. Ça fait 36 ans qu'on échoue.
Qui on ?
Nous, on échoue par rapport à une entreprise qui devrait réussir. Tu vois, la gloire, c'est la réussite. Donc, et nous, on échoue avec une insistance délibérale. Comme si on ne voulait pas réussir ce monde dans lequel on nous intime l'ordre de réussir, quoi. Tu vois, et ça, c'est la musique. Et ça, c'est la musique improvisée. Parce que la musique improvisée, c'est pas contrôlable. Tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas la réduire à 3 minutes 2 pour passer à la radio ou dans un disque. C'est vraiment. C'est symbole de liberté, quoi. On vient de faire un concert avec Michel Portal et puis Sylvain Luc. Comme ça, sans musique, sans papier, quoi. Sans âge. Sans appellation contrôlée, tu vois. Impassable.
Alors, à quoi ça ressemblait le jazz, enfin un morceau de jazz avant l'invention du disque? Parce que les gars, ils ont tous été obligés
de se mettre sur la taille du 78 tours, hein. Donc ça fait quoi, 2 minutes 25, je sais pas. Donc ils ont été obligés de construire leur musique, de refaire leur musique, hein. C'est une espèce d'orthopédie musicale. Mais comment c'était auparavant, imagine.
Mais si, exactement, mais imagine ce que devait jouer Chopin à la côté des partitions qui ont été retapées par les éditeurs. Il jouait sûrement pas comme on a reçu la partition. Et comment jouaient les musiciens de jazz dans les boîtes? Le principal truc, quand le jazz était libre, il ne savait pas commencer. Il ne fallait pas savoir commencer. Et on ne savait pas finir. Ce qui devait se passer, c'était entre un non-début et une non-fin.
Un état, ça s'appelle.
Et après, évidemment.
Un état liquide.
Oui, oui, un état pluriel et un état et un tiers état. Chose poélytique. Et alors, justement, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, il devient une nouvelle esthétique du jazz, c'est de la musique de disque. Le disque a orthopédisé, je ne sais pas comment on pourrait dire, il a fait advenir une musique de disque. C'est une musique plat préparée, toi, qui est faite pour être enregistrée avec sa durée et que les musiciens fabriquent, surtout avec les producteurs, pour pouvoir manger, pour pouvoir, surtout les producteurs, acheter des belles bagnoles et puis avoir... Parce qu'un producteur, si c'est pas riche, c'est pas un producteur. Il faut être logique, toi, c'est un producteur pauvre, c'est un connard, c'est un taré. Un producteur normal, professionnel, il est bourré de bagouses et de bagnoles, etc. C'est signe qu'il est vraiment professionnel. Tu vois. Donc, voilà, on en revient, ça fabrique des... Donc, ici, ces genres de trucs, ils peuvent pas venir parce qu'on est des minables pour eux, tu vois. Donc on est des échoués, on est des has-been, tu vois, pour eux. Voilà. Ça a été dur d'ailleurs, hein, d'échapper à...
De devenir des has-been.
Ah ouais, ouais, c'est constant, c'est une concentration terrible. Il faut même lire des livres, beaucoup de livres.
Et pour échapper à la réussite.
Ah là là, c'est... Ah oui, je vous conseille tout de suite, lire des livres. C'est vrai que parler répare, mais lire des livres.
Bon, allez tous, allez lisez.
On arrête là.
C'est une masse exécrable d'unités glutineuses qui s'empiètent dans les parcours, se faufilent entre leurs semblables comme des vers visqueux, dans un mélange de sueur et de parfums bon marché. Présence d'un trop-plein de vie, mais qui transpire un arôme de mort, une ambiance de zombie, et ça s'étend et ça s'accorde. Ça se dissout dans son propre moule, c'est ce qui s'appelle la foule. Les fouliens font acte de présence, lourde présence. Pourtant ils ne participent jamais vraiment. On participe seul, et j'accuse la foule de ne pas être un élément. Les fouliens sont bavards, mais leur bruit, leur vent, leur tempête ne dit jamais rien. Brouillard de mots qui dans ce désordre ne manifeste que du vide sous un air de trop plein. Les fouliens se croisent, se frôlent, se touchent, mais ne se mêlent pas. Rapprochés, oui, si bien rapprochés, mais de par l'esprit étroit de chacun pour soi. Les fouliens. Les fouliens sont habiles pour la fluidité, la vitesse, la fuite et l'esquive. Toujours en mouvement, mais pour fuir sans cesse une civilité oppressive. Les fouliens ne combattent pas pour leur liberté. Non, c'est l'individu qui combat pour ça. Une foule, ce n'est déjà plus qu'une foule. Mais passons. De toute façon, le fouliens ne connaît pas la honte, non. La honte appartient à l'intimité, pas à l'escadron. Alors le fouliens, lui, se complaît dans la masse, dans l'escadron, car il y est en nombre, et le nombre a toujours raison.
Roland Gory, reprenons au début, reprenons la couverture de votre bouquin et le titre, La fabrique des imposteurs. Donnez-moi une définition de votre imposteur.
Ah, c'est compliqué ça. Je ne vous donnerai pas des noms, hein, Daniel Mervé. Ah,
la tête parmi nous, non. On est quatre.
Non, non, si vous voulez.
La tête à France Inter, oui.
Non, l'imposteur, étymologiquement, ça vient, vous le savez, du latin imponere, qui veut dire finalement prélever. C'est à la même origine que les impôts, imposer. Donc c'est aussi intéressant, on est dans une société où finalement pour se vendre, il faut se vendre, hein, dans une société, bon, il faut en imposer. Et en même temps justement, l'imposteur c'est celui qui en impose par de fausses apparences dont il tire crédit et en somme il fait payer ses dettes par autrui. Alors, je ne vais pas vous donner des noms actuels. Bon, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Mais déjà, vous avez quand même Tartuffe ou l'imposteur. Moi, je reviens toujours à cette comédie de Molière parce qu'elle est extraordinaire. Tartuffe ou l'imposteur, c'est quoi? C'est finalement comment est-ce que je vais prélever dans la bourse d'autrui, lui piquer ses biens, lui piquer sa femme, en faisant les signes, les rituels, les cérémoniales, à même, justement, d'obtenir sa confiance pour en abuser. Bon. L'imposteur, c'est ça. Alors après, vous avez l'imposteur, le fraudeur, le tricheur, etc. Bon, vous avez bien sûr des ministres du budget chargés de lutter contre la fraude fiscale qui eux-mêmes sont en cavale fiscale. Vous avez la ministre d'enseignement supérieur allemande, proche d'Angela Merkel, qui on enlève le doctorat à cause de plagiat. Vous avez le grand rabbin qui va se trouver condamné, etc. Bon, vous en avez des tas. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est, si vous voulez, l'imposture quotidienne. Essayez de montrer que, bien sûr, chaque société à les imposteurs qu'elle mérite. Donc vous aviez avant, on va dire, pour faire vite, l'imposteur qui se prévalait d'une descendance aristocratique. Il s'appelait D'Alembert, il mettait des apostrophes, etc. Il s'appelait de ceci, à un seul mot, il va détacher la particule pour anoblir son nom. Bon, vous avez la jeune fille qui dit qu'elle est la reviviscence de Jeanne Lapucelle, enfin, etc. Ou bien celui qui vendait la tour Eiffel, voilà.
Hein. Celui qui a vendu la tour Eiffel.
Ah, ça, je trouve ça extraordinaire, magnifique. Hein, magnifique, hein.
Les plus belles impostures de l'histoire. Ouais,
peut-être, elle est peut-être en même temps l'emblème finalement d'une société, je dirais, qui justement ne fait reposer le crédit que sur la capacité à vendre ses apparences. Je crois que c'est ça. Bon, moi, j'ai semblant de montrer, c'est que aujourd'hui, l'imposture, à mon avis, elle est liée à finalement les normes que l'on met en place et la manière dont on gouverne les individus et les populations. C'est-à-dire que dans la mesure où aujourd'hui on vous impose des normes, aussi bien pour conduire, pour vous alimenter, pour vous comporter d'une manière générale, hein, c'est-à-dire qu'on vous dit comment vous devez vous comporter pour bien vous porter, on prescrit. Il y a une inflation des normes. Le XXe siècle a été, vous savez, la passion du droit sous la Ve République, dont parlait le doyen Carbonnier, il y a une inflation des lois. Aujourd'hui, c'est plus une inflation des normes, c'est-à-dire des règlements, des circulaires, du droit mou, pour aller très vite, hein, qui justement quadrille la vie des individus. Et par rapport à ça, c'est invivable. C'est inviable, parce que vous êtes à ce moment-là assigné à la place d'un animal ou d'un robot auquel on dit exactement ce qu'il doit faire. Et je crois que du coup, ça produit quelque chose qui est l'imposture aussi quotidienne, ordinaire. C'est un peu ça aussi le thème de mon livre, vous voyez. C'est essayer de montrer comment, si l'imposteur est bien cette éponge vivante qui absorbe les valeurs en vogue à un moment donné dans le jeu social, si vous voulez, si l'imposteur est bien ce martyr du jeu social, ben, aujourd'hui, on va dire que l'imposture, c'est aussi une solution pour essayer d'échapper aux exigences normatives d'un environnement qui vous fait vivre au-dessus de ses moyens. Et je crois que ça, on l'a de manière diluée dans notre société.
Ici, c'est un endroit formidable qui illustre parfaitement ce sur quoi vous travaillez, ce que vous dites là. C'est le cas de ce village d'Uzest où il y a quand même il y a un génie du lieu, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Bernard Luba, qui est à la fois quelqu'un de transgressif dans toute, avec une antériorité, avec une histoire ancrée dans le terroir, ancrée dans le village. Le père, il nous a raconté toute son histoire, qui tenait déjà l'estaminet, le bistrot, lui, et maintenant c'est son fiston qui continue, une espèce de, comme ça, de lignée de transgresseurs. C'est quand même étonnant, et qui est ancré dans, qui essaye de rester ancré dans des réalités sociales, tout en ayant une exigence artistique de recherche qui s'inscrit dans des courants artistiques connus, mais aussi avec des éléments très très personnels qui viennent de nulle part, sinon de la tête, du cœur et de l'âme de ce bonhomme, et qui arrive à être au milieu d'un espèce d'équilibre toujours déséquilibré, avec son langage, avec toutes ces pressions de toutes sortes, sociales qu'on peut imaginer, politiques, financières, à trouver un équilibre déséquilibré au milieu de tout ça.
Et je pense que profondément, justement, Bernard Luba, c'est un créateur. L'imposteur, c'est celui qui n'est pas capable de faire autre chose que de créer des formes déjà en place. En gros, l'imposture est la sœur siamoise du conformisme. Donc, en gros, avec Bernard, c'est autre chose. C'est que lui, si vous voulez, il crée sans arrêt. Alors, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est que parfois, on a l'impression que c'est un peu chaotique, un peu désorganisé, un peu improvisé, puisqu'il fait l'éloge de l'improvisation. Et je me suis aperçu, c'est la deuxième année que je viens à Uzest musical à son invitation, et je me suis aperçu que, si vous voulez, cette improvisation, elle était toujours organisée. Et là, on a quelque chose, à mon avis, qui dit ce qu'est l'art. C'est-à-dire, effectivement, c'est la vieille théorie nietzschéenne, si vous voulez, de cette confrontation entre Apollon et Dionysos. Entre, effectivement, les formes, et il en faut, et puis les forces. Et les forces, c'est dans les forces érotiques, les forces de vie, pour aller vite. Si vous avez que la forme, là, vous avez l'imposteur. Si vous avez, effectivement, que la force, que le chaos, eh bien, grande chance que ça soit tellement fragmenté, tellement angoissant, tellement déstabilisant, que vous poussez les gens vers le conformisme. Et là, vous avez un jeu dialectique entre les deux. Moi, je l'ai vu à différentes manifestivités, comme ils les appellent, où il m'a convié, où je ne savais pas trop ce que j'allais faire, à quel moment j'allais passer sous le chapiteau, etc. Bon, et finalement, je me suis aperçu qu'il avait... Au fur et à mesure, si vous voulez, il avait cette capacité de formaliser le chaos qu'il avait installé. Et je crois que c'est ça la création. Vous savez, je crois que c'est Raphaël qui disait du Père Eugène que son maître se copiait depuis 20 ans. Ici, avec Luba, on est dans une création renouvelée. Ce qui est génial, c'est qu'en gros, les gens attendent de la musique, ils leur donnent des poèmes. Les gens attendent, si vous voulez, une conférence de philosophie, et vous avez le tambour qui se met à jouer. Vous avez le saxo qui se met à jouer. C'est-à-dire qu'il a, en somme, transgressé les frontières et les lieux d'assignation traditionnels. Pour ce qu'il appelle les manifestivités poiélitiques. Voilà, j'arrive jamais jusqu'au bout du mot. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort. Dans une société où, comme dit Guy Debord, le vrai est un moment du faux, dans une société de l'artifice. Et ce qui est dramatique, c'est que désormais, il y a une généralisation dans tous les secteurs professionnels et dans tous les secteurs de l'existence sociale, justement, de cette facticité de la vie, des actes. Si vous voulez, lui, en gros, il désorganise tout ça, mais pas pour laisser désorganiser. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est vers ça que nous devons aller.
Merci à tous, merci à Roland Gory. Je rappelle son bouquin « La fabrique des imposteurs » aux éditions « Les liens qui libèrent », un autre livre de Roland Gory chez le même éditeur, « La dignité de penser ». Merci à toutes et à tous, merci à Thierry Nebout, Jackie Liégeois et à tous les œuvriers du Zest et d'ailleurs. C'était Luba, si j'y suis. Quand tu sais te faire entendre, ne t'étonne pas d'être mal vu. Dernier volet de ce reportage avec Antoine Chao. Vous retrouverez les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, et aussi sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Et puis vous pouvez faire un tour aussi sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Éric Mainviel, comme par hasard, et Philippe Duclos. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Alirer, préparée par Pierre-Yves Bulteau et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Alors on se retrouve pas demain vendredi. Vous savez que la direction de France Inter a fait le choix de supprimer le vendredi de Là-bas si j'y suis. Il y aura demain à 15h une autre émission qui s'intitule L'heure des rêveurs et qui est signée de Zoé Varié. Voilà, tout de suite vous allez retrouver Hervé Pochon au camping de l'Estac avec un temps de Pochon. Et Là-bas si j'y suis, ce sera lundi à 15h. C'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça.
Est Geste manifeste, geste parlusiste, geste manifeste. Mur, branche d'art, max, grand malaxe. Et je n'y perds le nord qu'en sens dissous, sud-ouest, en est, l'année, la nuit, le jour. Café les samisés, l'entre, l'outre, l'out. Café les samisés, l'entre, l'outre, l'out. Perbouste les colloques, n'est pas ses collagènes. Bruissonnière et les côtes d'art, soir, show musical. Et Oli est dans le sens, tu t'en pépites, doc. J'ai loupé les callbacks, au monde, les troubadours. Zig de don bac, big zest du zest. Zig de don bac, big zest en ouest. Zig de don bac, big zest du zest. Zig de don bac, big zest en ouest. Uzest sud-ouest, uzest en usine. Uzest monde ouest, ma mégalomamie. Geste parlusiste, est manifeste. Geste parlusiste, est manifeste. C'est là l'école porteur, n'est ni l'école au cul. Pas d'école au basket, en quête de fit cote. L'ailleurs est ici bac, ou swing d'avant la lèvre. Lettre de ballot, on bof et la blue now.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et alors... Bienvenue dans ce lieu assez idyllique, hein, parce que on est à Marseille, on est dans un camping. Bon, je dis idyllique, il y en a qui vont dire mais c'est une décharge. C'est comment vous pouvez dire que c'est idyllique? C'est une décharge? Non, c'est des caravanes qui sont récupérées, des tentes qui sont installées par-ci par-là. Là, il y a plein de canapés. Ce camping s'appelle Yes We Camp. Je suis en compagnie de Sébastien, le Superman, maintenant qu'on ne présente plus.
Alors, je ne vais pas parler des prix, hein, parce que ça va coûter cher de venir ici. Alors de 7 euros jusqu'à 80 euros, mais de 7 euros pour une personne dans un hamac, tout ça compris le déjeuner, le petit déjeuner en tout cas.
Ah oui, le petit déjeuner est offert.
Ah oui, oui, compris là-dedans, et puis bon, on fait... Excusez-nous.
Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions?
Oui.
Vous partez, là vous avez vos palmes et votre chien.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites?
Je pars nager à Niolon.
C'est une petite...
C'est une petite crique, oui, une petite plage.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à Yes We Camp?
Des amis qui se sont investis dans le projet, tout simplement.
Parce que vous avez un petit accent, vous êtes d'ici?
Non, non, du tout.
Ah non,
Dunkerque.
Dunkerque. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis infirmière.
En quoi il est particulier ce camping?
Ça roule avec les bénévoles, après par l'architecture, par plein de choses, je pense... Mais bon, moi, j'ai pas encore tout découvert, même si ça fait 3 semaines que je suis là. J'ai pas encore tout découvert du camping et de comment il fonctionnait. Donc voilà, je sais pas. Après.
Et de ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui vous plaît le plus?
Bon, une forme de liberté, je sais pas. Après, oui, de liberté, voilà. Et l'esprit un peu déglingué du camping.
Et là, vous restez encore combien de temps?
Je sais pas, trop. Après, je pense que je vais rentrer dans le nord, mais là, je sais pas, je me laisse vivre.
C'est bien, ça?
Ouais.
Mais vous n'avez pas une date de reprise en tant qu'infirmière?
Non, justement. Là, je suis une nouvelle infirmière, donc j'ai pas encore travaillé. Donc du coup, c'est mes vacances de...
Avant de rentrer dans la vie professionnelle?
Dans la vie professionnelle, exactement.
Vous avez de l'appréhension?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Vous dites que c'est la fin de quelque chose, là?
Oui, et le début de... Oui, bah oui, forcément. Ouais. Quand on est en études, on est toujours stagiaire, donc il y a toujours du monde autour de nous. Et là, c'est vraiment moi, mes responsabilités à moi, tout simplement. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, et puis voilà.
Et votre prénom?
Lise.
Lise. Bon, ben merci, Lise, et je vous souhaite une bonne baignade.
Salut.
Au revoir. Oh, c'est la pause.
Ah, et toi, tu fais pas de pause, hein? Bois le 51, tu es à Marseille.
Comment?
Bois le 51, tu es à Marseille. Arrête de travailler. On est de culture musulmane, mais quand même, je me bois du 51.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.
Prenez ce qu'il y a de bon dans la culture. Voilà. Merci.
T'as des deux côtés. Nous, on a fait tout, on a tout fait ça. Hein. Ça a commencé. Nous, d'être qu'on soit tous ensemble, qu'il n'y ait pas de différence, c'est parce que ça s'est passé au stade, en fait. Hein. Nous, on a nettoyé le stade Vélodrome. Hein. Et après ça glisse. Quoi. Après, tout le monde se connaît, même de quartier en quartier, on se connaît depuis longtemps, et voilà, quoi. C'est pour ça que Marseille, il n'y a pas d'émeute.
Ouais, enfin bon, quand même, tous les jours à la radio, on entend des petits problèmes à Marseille. Il y a des gens qui se font tuer, des petits problèmes.
C'est eux qui sont dans des histoires.
Ah oui.
Mais voilà, ceux qui sont dans des histoires, ils prennent la responsabilité après. Mais nous, je veux dire, nous, on est nés à Marseille. Le soleil, la mer, ça nous a fait du bien. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres choses, quoi. Tu vois, je veux dire, il y en a qui sont...
qui ont oublié l'essentiel, ils se consacrent au superficiel. Et nous, non. Nous, on sait que le plaisir, il est simple. Hein. La mer, le soleil et un peu de 51 aux heures de l'apéro, et c'est bon.
C'est les irresponsables qu'on a au pouvoir. C'est la vérité.
Mais vous votez ?
Je vote militant, j'ai fait voter les gens, je les ai bougés. J'ai parlé à des gens de politique, ils n'avaient rien à voir, ils sont revenus. J'ai rencontré des gens extraordinaires, il n'y a qu'à voir les chiffres. Regardez en 2007, tous les jeunes qui ont voté. C'est énorme, on a fait un pic, mais ils ont encore été floués. Et moi le premier. Mais en plus, on perd notre crédit, nous, parce qu'on croit un projet, parce que les gens nous suivent à nous. Je suis pas un berger, c'est pas des moutons. Mais j'ai une certaine reconnaissance. Et à un moment donné, on a dit, écoutez, moi je me mouille pour cette personne. Et cette personne, elle nous a chié dessus. Quoi. Une, deux, trois personnes. Parce que...
En 2007, vous avez voté pour qui ?
Nous, on vote à gauche ici. On vote à gauche. Je ne sais pas si on a raison, mais c'est le secteur marqué à gauche. De toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi on a raison, parce que nous, à notre niveau de difficulté et de détresse, finalement, c'est l'État qu'il faut. Gauche, droite, ce n'est pas le problème. L'hiver, les rouges.
Et vous pensez que... Normalement, ce camping, il va s'arrêter là bientôt. Vous pensez qu'il devrait rester ?
Pour nous, ce serait du gâchis. Parce que nous, c'est trop important. C'est de l'économie, c'est une vie, c'est une culture, c'est un mélange, c'est un vrai truc sur 15-16, quoi. Et d'un seul coup, parce qu'ils ont décidé de le faire de façon ponctuelle, de ne pas le pérenniser, nous, c'est important. Quoi qu'il se passe ici, c'est important, il ne se passe rien. C'est que du plus. Alors, nous ne l'enlève pas.
J'aimerais qu'on pérennise ce site. Pas tellement Marseille 2013, il faudrait Marseille 2014, Marseille 2015, il faut voir le futur aussi, pérenniser les actions au niveau culturel.
Votre prénom ?
Moi je m'appelle Larbi, je suis attaché parlementaire.
Vous êtes attaché à qui ?
Je suis à Europe Écologie, bon, ça tout le monde le sait.
Et vous pouvez me donner le nom de votre député ?
Karim Zeribi.
Eh bien je vous remercie, Larbi.
Eh bien un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve lundi.
Tes enfants aujourd'hui?
Ils vont bien, ils sont à l'école.
T'es rassuré? Sont assurés à la Matmut?
Oui, la Matmut, c'est l'assurance scolaire qui rassure les parents.
C'est beau ce que tu dis.
Non, mes enfants seront comme moi, des poètes.
Garantie selon conditions définies au contrat et réservée aux sociétaires Matmut.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le retour des informations avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, les députés britanniques sont appelés à voter ce soir une motion présentée par David Cameron, le Premier ministre. Motion sur la Syrie qui condamne l'usage d'armes chimiques la semaine dernière près de Damas. Il convient qu'une réponse humanitaire forte est requise, dit le texte, requise de la part de la communauté internationale et qui implique si nécessaire une action militaire qui soit légale, proportionnée et destinée à sauver des vies pour empêcher tout usage futur d'armes chimiques. Voilà ce que dit le texte. L'opposition travailliste a déjà dit qu'il voterait contre. Nous avons des doutes sur la nature opaque de la motion. Elle ne dit rien sur la nécessité d'avoir des preuves convaincantes. C'est pourquoi la motion donc a été assortie d'une condition pour passer de l'accord de principe à l'intervention effective. Un second vote est prévu au Parlement britannique, une fois connus en fait les résultats de l'enquête de l'ONU. Et à ce propos, les inspecteurs, eux, ont repris leurs travaux ce matin en Syrie. Ils seront terminés demain, selon Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Ce rapport, en fait, est au centre de toutes les attentions, puisque le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel en ont parlé encore aujourd'hui au téléphone. Tous deux sont d'accord pour dire, selon le Kremlin, que le Conseil de sécurité de l'ONU doit étudier ce rapport avant de prendre une décision. Et le Conseil de sécurité de l'ONU va aussi devoir plancher sur d'autres dossiers chauds, entre guillemets. Paris a demandé aujourd'hui une réunion d'urgence sur le cas de la République démocratique du Congo, confrontée à une flambée de violence. Il pourrait se réunir ce soir, au lendemain de la mort d'un casque bleu dans des affrontements avec le mouvement rebelle du M23 près de la ville de Goma, dans l'est du pays. Aujourd'hui, l'armée congolaise, aidée par les soldats de l'ONU, a poursuivi son offensive contre les rebelles. En Égypte, les pro-Morsi continuent le combat. Les partisans du président islamiste destitué ont appelé aujourd'hui à de nouveaux rassemblements, notamment après la grande prière de demain. Cette annonce intervient en fait quelques heures après que le gouvernement intérimaire ait redit à l'armée et aux policiers qu'ils ont le droit de tirer sur tout manifestant qui s'en prendrait à des biens publics ou aux forces de l'ordre. Les suites des violences mimées au Trocadéro lors de la fête du PSG à Paris. On apprend aujourd'hui qu'un haut fonctionnaire de la police parisienne, responsable à l'époque du service d'ordre, a été muté à la police des polices. De sources policières, on affirme que ce passage à l'IGPN est considéré comme un placard. Olivier Paquette paye les incidents, dit-on, du Trocadéro. La mosquée de Besançon a été taguée. Un sigle SS, une croix celtique et une inscription « Vive la France » ont été découvertes sur le mur du bâtiment. Selon l'Observatoire contre l'islamophobie, on observe une recrudescence des actes islamophobes, 108 rien que pour le premier semestre 2013, soit une hausse de 35% par rapport à l'an dernier. 80 emplois supprimés chez un fabricant de panneaux solaires en France. Solazéro à Pontonc sur l'Ardour dans les Landes a été placé aujourd'hui en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dax. Il n'y a en fait pas de repreneur. Vous écoutez France Inter, il est 16h03, tout de suite Carrefour de l'Odéon, c'est avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Est-ce qu'une musique française du XVIIIe siècle peut conquérir le cœur de musiciens du Venezuela? Eh bien oui, par le biais d'un claveciniste, danseur et chef d'orchestre, il s'appelle Bruno Procopio. Et puis il a convaincu ces gens de l'orchestre fameux, Simon Bolivar, qui joue plutôt des symphonies de Mahler, des symphonies de Beethoven, des choses très très colossales. Eh bien il les a convaincus de jouer une musique subtile, aérienne, légère, française quoi. Et ils ont été ravis. Voici pour exemple l'air des esprits infernaux de Zoroastre, tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau. Air des esprits infernaux de Jean-Philippe Rameau, tiré de Zoroastre, tragédie lyrique, interprété par les solistes de l'orchestre symphonique Simon Bolivar du Venezuela, dirigé par Bruno Procopio. Jean-Sébastien Bach, contrairement à Bruno, n'a pas eu la chance de voyager beaucoup, pas en dehors de son pays en tout cas, il n'est jamais allé à Venise. Et pourtant, il a pu s'inspirer des musiciens de Venise, parce qu'il a copié beaucoup de partitions, ça lui a coûté d'ailleurs une partie de sa santé visuelle, puisqu'il écrivait à la chandelle très tardivement, et ce, dès sa prime jeunesse. Alors, évidemment, il en a tiré le meilleur. Par exemple, d'après Alessandro Marcello, il a composé un concerto en ré mineur, et là, si l'ambiance de Venise n'est pas tout à fait évidente, on a l'impression que c'est le ferment qui a permis au grand Jean-Sébastien de s'exprimer et d'écrire pour le clavier. L'interprète s'appelle Olivier Cavé.